Bonjour, Corinne Dac. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous présenter une série de concerts de musique électroacoustique dans le cadre de la Semaine du Son, organisée à la fois par Art Recherche Technologie et Musique et la Fédération Belge de Musique Électroacoustique. Ben Zerblay om een reeks concerten in het Week van de Klank te mogen organiseren van de naam van Artem en de Belgische Federatie voor Electroacoustische Muziek. Aujourd'hui, maintenant dans quelques instants, nous allons entendre d'abord le compositeur belge Léo Cuper. Léo Cuper, je ne sais pas s'il faut encore le présenter parce qu'on le connaît bien en Belgique. Léo Cuper est un pionnier de la musique électroacoustique. Il a développé toute une série de recherches, notamment autour de la spatialisation avec des coupoles sonores, mais également au niveau de l'utilisation des voix d'une manière non traditionnelle. Et je pense qu'il va nous expliquer tout ça maintenant dans la présentation de son livre.
Je vous souhaite la bienvenue, un bel après-midi, et je vais vous parler pendant 30 minutes pour expliquer le contenu des deux livres qui sont sortis à Paris et qui s'appellent « Aventures sonores et musicales ». La première aventure est l'aventure des haut-parleurs. Imaginez-vous, lorsque je suis né dans un pauvre village de paysans, il n'y avait aucun haut-parleur en 1935. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, il n'y avait pas de portable, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Enfin, vous dire qu'est-ce qu'il y avait. On ne peut plus imaginer aujourd'hui ce monde où il n'y avait rien. Maintenant, vous avez sur la Terre des milliards de haut-parleurs. Donc, à peu près en 60 ans, comme une bestiole, comme un virus, dirais-je. Le haut-parleur s'est développé et au départ, il portait un nom très pessimiste, haut-parleur. Vous savez que par politesse, on ne parle pas en général. Donc le haut-parleur est un instrument impoli parce qu'il parle haut. Et il n'a pas perdu cette qualité-là avec le développement de la technologie. Bien au contraire, parfois, il parle même plus haut que haut. Et il s'amuse à détruire les cellules de Corti chez nos pauvres oreilles. Et la souffrance que le haut-parleur a engendrée est apparemment plus fort que le plaisir qu'il a pu donner. Bon, je ne suis pas négatif envers les haut-parleurs. Je veux simplement expliquer que je me suis amusé à commencer avec les haut-parleurs. C'est-à-dire que je me souviens en 1960, lorsque Henri Pousseur faisait des conférences à la musique syrielle, il était obligé d'avoir un pick-up avec encore mon nom à cette époque-là et qui diffusait ses haut-parleurs qui faisaient cric, 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 cric. Et on entendait au fond la musique syrielle. Autrement dit, c'était un casse-pied, le haut-parleur, un instrument ingrat. Et je me souviens que ceux qui aimaient les haut-parleurs étaient considérés dans la ville comme des paysans. Moi, je me sentais comme un paysan qui aime une chose qu'on ne doit pas aimer. Il était refusé dans le théâtre, il était refusé partout dans les spectacles. C'était un instrument ingrat, presque inhumain, déjà technologique. Bon, alors j'ai commencé à m'amuser avec les haut-parleurs parce que j'aimais bien, moi, les haut-parleurs. Pourquoi peut-on aimer un haut-parleur ? Tout d'abord, on peut parler haut, s'il le faut. Deuxièmement, quand on a deux haut-parleurs, on a deux lieux où le son est émis. Imaginez-vous, vous seul, vous ne pouvez pas émettre en deux lieux. Vous avez deux oreilles, mais pas deux bouches. Alors, quand on avait deux haut-parleurs, c'est un peu comme la création de l'univers. 0 devient 1, 1 devient 2, 2 devient 3, 3 devient infini. Aujourd'hui, le haut-parleur peut se multiplier à l'infini. Vous savez, le haut-parleur, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. C'est-à-dire que plus vous en avez, plus la qualité du son sera bonne. Donc, complexifiez et vous serez heureux. Alors, deuxième aventure, qui est une aventure beaucoup plus logique et beaucoup plus difficile à concevoir, c'est les coupoles sonores. Les coupoles sonores finissent avec ce jeu de haut-parleurs un peu aléatoire, un peu aventureuse, et ils veulent ordonner les haut-parleurs. C'est-à-dire qu'on veut faire entrer chaque haut-parleur à une place spécifique qui le concerne. Voici la maquette de la première coupole sonore de 1977 à Rome. Voilà le plan. Vous voyez comment les haut-parleurs sont attachés maintenant en l'air, jusqu'en par-dessus les gens. Vous allez voir, voici le regardez. Vous voyez les haut-parleurs attachés aux barres de fer. Ici, vous voyez l'arrière de la coupole. Pourquoi des tissus et pourquoi des ballons? C'est en 77, n'est-ce pas? Ce n'était pas pour un ornement ni pour amuser les enfants. C'était uniquement pour étouffer la salle et la rendre anéchoïque. Parce qu'il est fondamental que si on veut écouter un haut-parleur et pas l'effet du haut-parleur dans une salle, qui est très mauvais pour l'écoute, pour la précision de la perception auditive humaine, on doit avoir une salle anéchoïque. Voici la salle à l'intérieur et voici le public. Et vous pouvez voir aussi ici les quatre joueurs d'espace, parce que voilà un nouveau type de musicien qui apparaît dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle le joueur d'espace. Qu'est-ce qu'ils font ces messieurs-là? Il y en a quatre. Un, c'est Vittorio Consoli, qui était mon ami, et moi je suis là aussi. Il y a encore deux autres musiciens italiens qui sont devant une quantité intéressante de fadeurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, dans une salle voisine de celle-ci, il y a plusieurs musiciens qui jouent un instrument individuel, qui ont chacun leur microphone. Par exemple, le joueur de piano est capté par un microphone. Ensuite, il arrive chez le joueur numéro 1, qui va jouer sur la coupole le piano. Voilà, c'est fini le piano immobile. C'est le piano qui vole, c'est le piano qui s'envole, c'est le piano qui reste figé, c'est le piano céleste, puisqu'il y a une dimension au-dessus de la tête. Et voici mon appareil, dont je parlerai très peu. C'est-à-dire qu'en 1977, j'avais fabriqué ce que j'appelais un générateur automatique de musique électronique. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que je trouvais qu'à cette époque-là, c'était tellement bête et facile de faire de la musique électronique, il suffisait d'ouvrir le robinet du générateur. On avait des sons électroniques, je ne dirais pas musique électronique, puisque le son, ce n'est pas la musique. Alors je me dis, puisque c'est si facile de faire marcher un générateur, pourquoi pas en fabriquer un qui fonctionne automatiquement? Et voilà, j'avais donc le générateur automatique ici à droite. Vous voyez tous les faders qui s'ouvraient sur chaque haut-parleur. Et j'avais les automates ici. Vous voyez les microphones là, les petites choses blanches. Vous avez les gains du microphone. Et ce microphone stimulait une cellule sonore qui était cachée dans la boîte et qui ressortait sur la coupole sonore. Alors, ces microphones n'attendaient qu'un signal, le signal des gens. Donc, les gens participaient à la création, à la génération des sons. Et voilà un nouveau point apparu. L'homme n'est plus un auditeur passible et impassible, assis sur une chaise comme vous l'êtes pour l'instant, mais vous réagissez quand je parle, et vous réagissez en créant des sons. C'est-à-dire que c'est un tout autre comportement de l'homme. Le fait est que nous souffrons tous dans les villes du fait que nous n'avons aucune influence sonore sur les voitures, sur les avions, sur les trains, sur les métros, sur les gens même. Les gens passent, ils ne veulent plus se parler, ils ne veulent pas se stimuler parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'aiment pas les gens. Donc, on a créé une société, que j'appelle une société refroidie, qui fait que les stimulations n'ont plus de réponse. Or, croyez-moi, si vous n'avez plus de réponse, c'est très grave. Parce que vous créez une solitude de l'individu et vous créez une désocialisation, un appauvrissement humain. Parce que le trésor de l'être humain, qu'est-ce que c'est le trésor de l'humanité? C'est d'avoir des êtres humains qui vous répondent, qui vous stimulent, que vous stimulez, d'avoir un échange chaleureux, d'avoir même un amour pour les autres, au lieu d'avoir une société gelée par stimulation, par non-stimulation. Et encore aujourd'hui, il y a des compositeurs qui sont convaincus que l'espace est secondaire. Mais croyez-moi, dans le futur, l'espace, ce paramètre sera le plus important de toute la musique. Le futur qui viendra, vous verrez, vous serez environné de centaines et de centaines d'haut-parleurs. Des coupoles sonores couvriront vos têtes et vous aurez non seulement la capacité vous-même de générer la musique, mais les compositeurs vous feront entendre des chefs-d'œuvre dont le paramètre premier est l'espace. Voilà, maintenant le temps audio-numérique. J'ai écrit un article vraiment très intéressant sur le temps audio-numérique parce que j'ai montré que le temps, comme les scientifiques, le temps est une illusion. Enregistrez-le, le temps est une illusion. Si le temps est une illusion, musicalement, il faut enlever cette illusion. Vous êtes d'accord? Alors, dans la musique traditionnelle, rythmique, 3 sur 4, la valse, le temps n'est pas une illusion. Vous tournez en rond, c'est déjà un peu une illusion quand même. Ça vient des moines de Cognac avec Molana qui disait déjà que tout danse, tout dans l'univers danse. Par conséquent, le temps au niveau numérique, j'ai montré que si vous créez la triade passé, présent, futur, vous créez le temps. Alors, comment allez-vous faire pour détruire le temps? Facile, détruisez la triade. C'est-à-dire, enlever le passé, enlever le futur, et qu'est-ce qui reste? Le présent. Mais le présent cache une nouvelle triade. Attention! Dans ce cas, vous devez retravailler pour que le présent perde son avant et perdre son après. Mais même ce présent tout petit là, microscopique, il est encore trop beau. Alors, si vous continuez par la musique à supprimer l'avant et à l'après, et puis à supprimer le micro-avant et le micro-après, vous arriverez un jour, c'est ce qui m'est arrivé, à arrêter le temps. Et maintenant, pour moi, la musique, le rôle premier, c'est arrêter le temps. Pourquoi il est chiant, le temps? Il est vraiment chiant, c'est-à-dire que il ordonne toutes nos émotions dans une suite qui fait que les moments heureux et les moments malheureux sont classés alphabétiquement ou chronologiquement, qui signifie bien la durée, n'est-ce pas? Bon, j'arrête ici parce que je ne veux absolument pas prendre le temps de Françoise Barrière. J'aurais voulu parler pour vous donner tellement de choses que le livre contient. Mais je vous remercie, j'ai vu que vous avez pris attention, que vous avez quand même remercié celui qui vous a stimulé.